Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
De retour dans les grandes gueules du sport en direct jusqu'à midi, Fred Weiss, Marion Bartoli, Ludo Duchesne. Si vous vous réveillez seulement maintenant, bah d'abord vous avez de la chance et vous pouvez retrouver le podcast dès maintenant sur l'appli RMC. Je vous assure, on a des grandes gueules en pleine forme, n'est-ce pas?
On se réveille aussi.
On est bien.
Ah, ça y est, ils sont réveillés. Là, je les ai réveillés. Là, il y a eu la petite pub, là, hop, les infos, ils ont dormi. Donc, ils sont de retour en pleine forme pour cette dernière heure. Dans 30 minutes, on va ouvrir le dossier des GG sur le Tour de France Femmes. Et on retrouvera Léna Marjac, hein, suite aux déclarations de Cédrine Kerbaol sur la maigreur des concurrentes du Tour de France Femmes. C'est un dossier qu'on voulait absolument faire. On a pas mal de réactions à vous faire écouter. Et puis, à 11h45, le débat caché, les GG qui ne savent rien et qui pourtant vont devoir débattre, et je sais qu'elles ne savent absolument rien. Parfois, vous arrivez à tricher, mais là, je suis sûr que vous ne savez absolument pas. Pas d'idée.
Tu te trompes peut-être.
Vas-y, t'as une...
J'ai réussi à corrompre peut-être Kylian Vérov.
Non, je suis sûr que non. Il est incorruptible.
Il est très facile à corrompre.
Ah bon, on va parler de Djokovic, par exemple.
De Djokovic?
Ouais.
Ah, ça pourrait.
Qui vient de actionnaire au Mans, donc c'est super intéressant.
Ça serait intéressant d'en parler.
Voilà.
Peut-être qu'on l'a gardé pour demain.
Comme l'a dit Marion, 24 tournées du Grand Chelem.
Bon, on verra ça. Marion, t'as pas d'idée?
Aucune, je sais pas.
Très bien, bah, c'est tant
mieux. Je suis perdue.
Mais je pense que, alors je vais vous dire un petit truc. Il y a un petit avantage Marion Bartoli, comme on dit.
On va parler tennis.
Ah.
C'est tout ce que j'ai.
On va parler de Venus Williams, je crois.
Non, mais ça on l'a fait la semaine dernière, n'importe quoi, on va pas faire tous les.
Mais non, mais du post qu'elle a fait sur Instagram, on lui avait dit qu'elle pouvait plus jouer au tennis.
Dis pas plus, on verra ça à 11h45. D'abord, c'est le moment d'accueillir le king de la F1. Et c'est pas Verstappen, hein. C'est Jean-Luc Roy, la preuve.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Ayez de l'ambition.
Eh ben non, justement, Verstappen a été dépassé, débordé par Oscar Piastri.
Nous vivons dans une société où on décourage les gens qui ont de l'ambition.
C'est bien qu'il y ait une émulsion et que les deux pilotes soient émoustillés par la rivalité. Là, effectivement, on doit cogiter dans les chaumières. Et
pire, on se moque d'eux.
Et oui, Verstappen parti en demi-tête à queue, on va dire, s'est fait piéger le quadruple champion du monde. Il a perdu pas mal de place et il est dixième maintenant.
Pire, on les pointe du doigt, on les stigmatise.
Je sais pas dans quel état il va aborder les qualifs là dans quelques minutes, mais écoute, s'il n'est pas gonflé comme une pendule.
C'est catastrophique. Nous vivons, nous les francophones, dans une société où la réussite est malvenue.
Erreur de débutant, Jean-Luc, de la part de Verstappen, quand même, comme ça. Il sait que ça va réaccélérer, oui. Que la piste est quand même glissante. C'est étonnant, de la part du meilleur pilote du circuit du monde.
L'ambition d'apprendre, l'ambition de voir grand.
C'est une erreur énorme, mais il doit s'en vouloir. Verstappen dit qu'il n'a plus d'espoir, mais bon, tu connais l'oiseau. Hein.
Oui, c'est sûr.
Faites monter, grandir, croître votre ambition.
On n'a jamais considéré que c'était vraiment un top pilote. Il est en rupture de contrat à la fin de la saison et on le fait languiner.
L'ambition, ayez de l'ambition.
Alors là,
belle présentation. Il a plusieurs vies, Jean-Luc Roy.
C'est magnifique.
Jean-Luc King.
On l'accueille. Le King, Jean-Luc Roy, est avec nous. Salut Jean-Luc.
Ah, vous m'avez pas loupé. Salut François, salut Marion.
Bonjour Jean-Luc.
Salut Ludo. Oh là là. Ça part bien.
Ah non, mais moi j'adore. Là, les expressions de Jean-Luc, là, on va les garder, cogiter dans les chaumières, gonfler comme une pendule, tout ça, j'adore. Une émulsion.
Une émulsion. Une émulsion. Bon appétit, bien sûr.
C'est génial, on t'adore. Merci beaucoup. Jean-Luc, bon, on fait aussi appel à toi, pas que pour ces petites expressions, mais aussi pour ton analyse et ton expertise. On va parler de Max Verstappen, qui a donc mis fin aux rumeurs cette semaine en confirmant qu'il restait chez Red Bull. Le quadruple champion du monde reste dans l'écurie qui lui a permis de gagner ses titres, malgré les difficultés rencontré cette année. Je vous pose la question, les GG. Verstappen fait-il le bon choix? Oui ou non? Fred Weiss.
Oui.
Marion Bartoli.
Plutôt oui.
Ludo Duchesne. Qu'est-ce qu'il se passe?
Mais dire non.
Non. Je suis désolé, hein, j'aime beaucoup Marion et Fred, mais comme ils racontent n'importe quoi,
mais c'est quoi l'avantage? C'est que tu nous aimes beaucoup et c'est pas du tout réciproque.
Ouais, moi je suis comme ça, j'ai un cœur.
Alors Jean-Luc, justement, explique-nous avant d'arbitrer ce duel ce qui a été dit par Max Verstappen, qui a voulu clarifier cette situation qui était devenue assez floue, hein, au sein de Red Bull.
Ah bon, j'avais fait un papier sur Lewis pour faire plaisir à Marion.
Qu'est-ce que c'est, cette histoire?
Pour sa retraite.
Pour Lewis.
Bon allez, on est parti. Max Verstappen a tenu à évoquer sa situation future jeudi dernier à Budapest avec précision et acuité, comme il le fait toujours dans la mise au point de sa Red Bull. Alors que des rumeurs de plus en plus pressantes l'envoyaient chez Mercedes dès la saison 2026, le quadruple champion du monde en titre a tenu à préciser qu'il piloterait toujours pour Red Bull la saison prochaine et qu'il n'a jamais été question pour lui de changer d'écurie en fin de saison, contrairement à ce que certains, soi-disant bien informés, pouvaient prétendre. Il a même tenu à insister sur le fait que la seule personne autorisée à s'exprimer sur ce sujet, c'était lui, et qu'il n'a jamais affirmé autre chose, ne manquant pas d'égratigner, de tourner en ridicule, ce qui affirmait de source sûre que le contrat était déjà signé. Certaines personnes ont toujours intérêt à colporter de fausses informations pour se faire valoir ou pour semer la zizanie, a-t-il affirmé. Des propos curieusement tenus également il y a quelques heures par Fred Vasseur, le patron de la Scuderia Ferrari, que les mêmes voyaient être remplacés en fin de saison, alors qu'il vient d'être reconduit à son poste pour 3 ans. Chercher à qui le crime profite, il va falloir trouver un autre terme pour désigner la silly season en Formule 1. Ça commence par un F et ça ne va pas plaire à Ben Sulayem.
Alors là, t'as perdu Ludo, là.
J'ai perdu Ludo.
C'est trop compliqué.
Oui. Non, j'ai pas compris.
Voilà,
la fin, t'as pas compris.
Oui, ouais. Oui. Vas-y.
Alors le mot CF, je vais pas le dire parce que je vais prendre 10 000 dollars d'amende. C'est ING à la fin.
Voilà.
Et Ben Sulayem, c'est le président de la FIA qui veut pas que les pilotes utilisent des gros mots parce qu'il a peur pour ses enfants.
Voilà.
Enfin, c'est sous-titre,
j'aime bien. Une polémique à 2 balles.
Parfait.
Voilà.
Jean-Luc, tu vas donc arbitrer le débat, je le disais. Est-ce que Verstappen fait le bon choix? On va donner la parole à Ludo. T'es le seul à avoir dit non. Alors j'aimerais bien savoir pourquoi. Tu penses qu'il n'a pas fait le bon choix de rester chez Red Bull?
Non, déjà, peut-être Jean-Luc nous parlera de ces rumeurs, est-ce qu'elles étaient fondées ou pas, parce que c'est quand même important.
Et ne l'était pas, il vient de le dire en fait.
De le savoir. Non, mais
à mon avis, c'est après, ouais, voilà, le monde de la Formule 1.
Il y a pas de hasard non plus. Ce qu'on sait en Formule 1, c'est qu'il y a des dynamiques. Il y a pas longtemps, c'était Mercedes. Après, ça a été les Red Bull. Aujourd'hui, c'est plus les McLaren. Est-ce qu'il fait le bon choix? Il y a que lui qui peut donner cette réponse. Ce qui est sûr, c'est que c'est peut-être encore le meilleur pilote du circuit. Maintenant, c'est vrai que si la mauvaise passe de Red Bull doit durer, et il va peut-être perdre quelques années, et après, il aurait fallu qu'un baquet se présente également. Il faut un volant. C'est-à-dire que, est-ce qu'il fait le bon choix? Mais est-ce que, par exemple, chez McLaren, on lui aurait offert un volant?
Pas chez McLaren, mais on parlait de Mercedes beaucoup, Jean-Luc.
Oui, mais...
C'était fondé,
bien sûr.
On le disait.
Il aurait eu une offre chez McLaren, ça changeait tout. Mais
il n'a pas eu d'offre, c'est ça que tu veux dire?
Non, ils ont verrouillé leur pilote.
Russell
ne
devait pas partir aussi, non, Jean-Luc?
Russell, a priori, le pauvre, lui, c'est par défaut qu'on va le garder. Alors c'est ça qui est rigolo, parce que à qui le crime profite, je vais vous le dire tout de suite. Toto Wolff, c'est évidemment lui qui a lancé toutes ces rumeurs pour essayer de déstabiliser Red Bull depuis le début et même depuis l'an dernier. Ça a commencé l'an dernier, les rumeurs sur le fait que Mercedes allait recruter Verstappen. Donc, tu vois, c'est pas d'hier. Et je te dis, à qui le crime profite? Dans la mesure où Red Bull, jusqu'à Miami l'an dernier, pour être très précis, dominait outrageusement, comme
Archie
le fait
dominé.
McLaren aujourd'hui. Il fallait bien les déstabiliser. Alors, il y a eu l'histoire du comportement, là, on saura jamais, bref, un peu bizarre, on va dire, de Christian Horner par rapport à une de ses employées, par rapport à son assistante, pour être précis. Bon, bien alimenté par le fait qu'il y a d'après mes infos, on va tomber dans le ragot, tu vois. Je crois que Jos Verstappen, j'ai bien Jos le père, était un petit peu intéressé par la personne en question. Donc, vous voyez, tout ça part, quoi.
Chaud,
voilà. Tout ça, c'était pour essayer de descendre Red Bull, en partie réussi, puisque ça marche moins bien, mais c'est pas à cause de ça ou grâce à ça. C'est parce que, comme tu l'as dit très justement, Ludo, il y a des cycles en Formule 1. Il y a eu la domination outrageuse et outrageante, en tous les mots de Ferrari dont tout le monde se rappelle, horrible dans le début, horrible pour moi, parce que c'était chiant, pour être clair. Après, il y a eu Red Bull avec Vettel. Après, il y a eu Mercedes avec le changement de réglementation. Et puis là, on a eu une période Red Bull. Bon, maintenant, on a McLaren. Il va falloir s'habituer.
Et c'est pour ça qu'on se pose cette question. Est-ce qu'il a fait le bon choix?
Je suis très surpris parce que cet homme qui s'appelle Ludo Duchesne a dit qu'il avait du cœur. Et en fait, il a pas du tout de cœur. Il fait preuve d'un cynisme extraordinaire.
C'est-à-dire
que, en gros, c'est un pilote a performé avec une équipe. Il a été magnifique, il a été fantastique. Ils ont grandi ensemble. Et d'un seul coup, sous prétexte que ça va un petit peu moins bien, il devrait partir déjà. Moi, je trouve ça incroyable comme raisonnarument.
C'est vrai que vous expliquez que Donnarumma devait absolument partir.
C'est d'un cynisme absolu. Et justement, je vais en venir à Donnarumma. Apparemment, Donnarumma, il manque de reconnaissance. Mais ce serait quoi la reconnaissance de ne pas honorer son contrat pour Verstappen? Il ne fait qu'honorer son contrat. Il ne prolonge pas. Il honore juste son contrat. Donc, je ne comprends même pas la réflexion de Ludo.
Et Donnarumma, lui, ne doit pas l'honorer.
Cet homme n'a pas de cœur. Cet homme ne respecte pas le sport.
Les attaques personnelles.
Cet homme n'ont pas lieu dans les jeux. Cynisme absolu.
Et quand ça fait de revenir, les deux.
Et quand ça l'arrange, il va défendre Donnarumma. Quand ça l'arrange, ça, il va défendre un tel et un tel.
Le
débat est simple. Il a un contrat. Il est avec une écurie qui est en difficulté. Il va au bout de son contrat parce qu'il respecte l'entité qu'il a fait grandir, qu'il a vu grandir. Ils ont grandi ensemble.
Tu penses que ça se passe comme ça?
C'est juste magnifique. Moi, j'aime cette vision parce que moi.
Peu importe si la voiture avance pas.
François, moi. J'ai du cœur.
Oui. Bon, là-dessus, après pardon, ça, c'est difficile de rebondir. Marion.
Alors, moi, j'ai pas la même lecture, les amis. Effectivement, s'il y avait un baquet qui était libre chez McLaren, qui est en train de dominer cette saison, puisqu'ils ont 516 points au classement des constructeurs avec 10 victoires, que là, pour moi, Max Verstappen se saisit de l'occasion et effectivement aille dans une écurie avec une voiture bien plus performante, bien sûr qu'il aurait, je pense, fait le changement. En revanche, entre Ferrari, Mercedes et Red Bull, Ferrari est deuxième avec 248 points, Mercedes est troisième avec 220 points, Red Bull est à 192. Chacune de ces voitures a des difficultés. Donc, je veux dire, pourquoi changer pour aller dans une autre écurie où il va falloir apprendre à connaître les ingénieurs, apprendre à connaître la voiture, réapprendre à s'approprier la voiture, de toute façon, où il y a des soucis dans les deux autres écuries que je viens de citer. Donc pour moi, effectivement, il prend la bonne décision de rester, puisque finalement, alors j'aimerais poser cette question à Jean-Luc, parce que ça me paraît absolument incroyable de voir d'où viennent les difficultés de la Red Bull cette année. C'est qu'en fait, il y a une mauvaise corrélation entre les données issues de l'usine et la réalité du circuit. Pour faire clair, les outils numériques utilisés en soufflerie ne correspondent plus aux performances observées sur la piste. Donc en fait, ils ont une cause identifiée qui est une soufflerie qui est ancienne, qui est pas assez isolée et qui est soumise aux variations importantes de température extérieure. Ce qui
donne des difficultés. Marion, j'ai pas compris un mot. Je préférais que Jean-Luc nous explique avec des mots plus simples.
C'est très très clair. Ce qui donne des difficultés qui me paraissent quand même incroyables, puisqu'on connaît les budgets de Red Bull. Ça me paraît quand même insensé qu'il n'arrive pas à régler ce problème, puisque on l'a vu à Suzuka, finalement, sur un circuit où les difficultés de la monoplace de Red Bull sont un petit peu cachées, puisqu'il y avait la fraîcheur de la température, il y avait les types de tracés qui masquaient habilement les faiblesses de la monoplace. À Sakhir, à Bahreïn, on a vu toutes les difficultés qui étaient exacerbées de la monoplace de la Red Bull, avec une chaleur extrême, une usure élevée des gommes et des freinages violents qui sont pas du tout adaptés sur la Red Bull. Donc, ces problèmes de soufflerie, Jean-Luc, qu'est-ce que t'en penses? Mais ils doivent absolument les régler pour la saison prochaine.
Pour être très clair pour Fred, est-ce que Max Verstappen va retrouver une voiture compétitive l'année prochaine? C'est clair.
Donc, t'es en train de m'expliquer que les 4 minutes de Marion, tu l'as résumé en une demi-phrase.
Voilà. Non, mais
en fait, il est désagréable avec tout le monde.
Ah oui, il est très désagréable ce matin. Je suis d'accord.
Il n'y a pas de cœur, c'est normal.
Voilà.
Jean-Luc, toi, tu sais l'amour que je te porte.
C'est pour rire.
Et puis, je dis pour les auditeurs, même en antenne, il est très désagréable.
Enfin, la vérité.
Voilà. Jean-Luc, donc, pour répondre à la question de Marion.
Alors, la remarque de Marion est pertinente. Comme d'habitude, Marion, c'est exactement ça.
Merci.
Alors, il
n'y
a pas que ça. Il y a aussi.
Voilà. Alors là, il y a un problème, je crois, dans la voiture de Jean-Luc.
Il a dit une bêtise ou quoi?
Non, tu sais ce qui s'est passé. Il a donné raison à Marion. Donc, forcément, il s'est passé quelque chose. C'était logique.
Quelqu'un
a coupé. Je
ne
sais pas qui a coupé, mais il a bien fait.
Il a qu'elle est dans ton camp depuis le début, donc tu viens de là.
Là, je sais pas. Donc, Jean-Luc, malheureusement, nous n'aurons pas
assez.
Voilà. J'espère que tout va bien pour Jean-Luc Roy. On va quand même se renseigner. On va retrouver Jean-Luc dans quelques instants. Il y a quelque chose, quand même. C'est pas facile de rebondir parce qu'il était prêt de nous expliquer tout ça. Il y a quelque chose qui est intéressant quand même pour Verstappen, c'est qu'il va quand même y avoir pas mal de changements l'année prochaine.
Exactement.
Et ça, c'est quand même une donnée intéressante, c'est qu'on ne sait pas quelles vont être les monoplaces qui vont s'en tirer par rapport à ce changement. On va vraiment quasiment tout remettre à zéro.
Donc, mais c'est ça justement, je pense, qui le fait rester, c'est qu'il se dit
que
là,
il
est dans le dur. En fait, c'est ce qu'expliquait Jean-Luc est très juste. Jusqu'à Miami de l'année dernière, ils étaient complètement dominants, Red Bull. Donc, je pense qu'il y a effectivement des problèmes de data, des problèmes sur la voiture. Mais pour 2026, tout va être remis à zéro, puisqu'on a eu Fred Vasseur aussi assez longuement sur nos antennes qui nous a expliqué que tout va être remis à plat pour 2026. On repart complètement de zéro pour toutes les écuries. Donc l'archidomination actuelle de McLaren n'est pas du tout certaine pour 2026. Et là où je suis d'accord complètement avec vous, c'est que Max Verstappen a totalement les qualités en tant que pilote pour arriver, si la voiture Red Bull est mieux née pour 2026 au vu des changements de réglementation, à redevenir champion du monde.
Donc, c'est surtout un capitaine, ça n'abandonne pas son équipe, c'est difficile.
Je voulais demander à Jean-Luc, est-ce que le départ de Christian Horner ne favorise pas le fait que, que Verstappen reste?
Ah oui.
Alors, lui, non, mais réponds-moi sous la soufflerie, ne les écoute pas, Jean-Luc.
Il y a plein de questions en même temps.
Non, mais parce que, comme ça,
alors,
ça
lui a dit que. Lui a dit
réponds
que non.
À Ludo et après tu répondras à Marion. Vas-y.
Lui a dit que non, que ça n'influence pas du tout sur sa décision. Alors j'ai essayé de vous rappeler quand la ligne a coupé, comme d'hab, qu'il y a quatre personnes qui sont parties quand même. Il y a Adrian Newey, le designer, Rob Marshall, le chief designer, Jonathan Whitley, le sporting director, et Will Courtenay, qui était un ingénieur qui comptait beaucoup et qui était là lui aussi depuis très longtemps. Donc Red Bull, ça s'est fait petit à petit en 20 ans. Hein. Et ces gens-là, évidemment, avaient une influence considérable sur l'évolution de la monoplace d'une part et la conception des monoplaces à venir. Alors comme l'indiquait Marion très pertinemment, comme j'ai eu le temps de le dire, et ben effectivement c'est vrai que là il y a une corrélation entre les fameux simulateurs et les souffleries et puis la réalité de la piste. C'est un problème que toutes les écuries doivent résoudre avec plus ou moins de difficultés, plus ou moins d'acuité, plus ou moins de finesse. Mais dans le cas de Red Bull, ça les a conduits dans de mauvaises directions. Alors pour répondre à la question, et à mon avis la raison majeure pour laquelle il reste, au-delà de la fidélité et du contrat bien sûr, c'est qu'il a le sentiment, parce qu'il est comme tout le monde, avant le changement de 2026, que Red Bull va être capable de réagir et de produire une monoplace en 2026 qui sera pas loin des McLaren, parce que c'est le but à l'heure actuelle. Hein. McLaren est tellement au-dessus du lot, on l'a évoqué avec le classement également tout à l'heure, aller chez Mercedes, bah, c'est descendre encore d'une marche. Hein. Mercedes, bien pour sûr. Le moment, ça marche pas du tout. Ça marche quand il fait moins 15 sur la piste, dès que la température dépasse 12 degrés, ça y est, elles sont à l'arrêt. On l'a vu d'ailleurs en Belgique, pour a priori, ils avaient gagné l'an dernier, vous vous rappelez, c'était même Russell qui avait gagné devant Hamilton, Russell déclassé parce qu'il avait un kilo en moins, enfin bon, mais les Mercedes marchaient super fort. Et cette année, bah, malheureusement, sans que l'écurie sache pourquoi, elle ne marche plus. Alors aller chez Mercedes de la part de Verstappen...
Ça ne changera rien du tout.
Mais non, rien du tout, au contraire.
Exactement.
Alors, Mercedes fait courir des bruits, là aussi, parce qu'ils sont très bons pour ça. Hein. Toto Wolff, c'est le champion du monde des bruits foireux.
J'ai une question pour toi.
Ça attaque à McLaren maintenant.
Ah bah, on y va.
Avec Jean-Luc, ça tire à balle réelle, je peux vous dire.
Non, mais ils n'arrêtent pas de dire oh, « bah, on a le meilleur moteur ». Mais attends, ils se basent sur quoi? Ils connaissent le moteur des autres? Bien sûr que non. C'est simplement qu'en 2014, lorsqu'il y a eu ce changement radical de réglementation, ils avaient très bien travaillé, avaient été meilleurs, ils avaient écraser tout le monde. Mmh. Donc ils disent, ah ben, on va à nouveau les écraser. Mais personne ne le sait. S'il faut le meilleur moteur, c'est le moteur conçu avec Ford par Red Bull.
Jean-Luc, une dernière question.
Avant que ça recoupe.
Oui, avant que ça coupe.
Puisque Verstappen décrit à chaque fois une expérience, alors je traduis hein, de l'anglais au français, super compliquée, où chaque freinage devient une aventure incertaine avec des blocages inattendus et des pneumatiques surchauffés pour sa Red Bull. Là, l'explication technique là-dessus, ils en ont donné une, t'en trouves une, tu penses quoi?
Bah, ils sont nulle part le vendredi, comme tu as vu, Marion, puisque t'es toujours bien informé. Ils sont nulle part. Et là, c'était le cas encore, hein. Rendez-vous compte, là, il a signé le 14e temps. C'est absolument effarant.
Et c'est horrible.
Ah, c'est affreux. Tsunoda est devant lui, avec l'autre Red Bull. Il est le 9e. Donc, donc ils ont dû bosser toute la nuit comme des fous. Ils vont trouver une solution, parce que ça
c'est
fait jamais
compliqué,
qu'ils reviennent.
Jean-Luc.
Pardon?
Laissez finir Jean-Luc. Vas-y Jean-Luc.
Vas-y.
Oui, il va y avoir la FP3 là. On va en savoir plus d'ici une heure et demie hein, à peu près. Et puis après évidemment les qualifs pour le Grand Prix, puisque celui-là c'est un week-end normal. Alors il faut rappeler aussi, on aurait presque dû commencer par là, que la Hongrie n'a rien à voir avec les autres. C'est un circuit, je l'appelle ça le tourniquet hongrois. C'est un circuit extrêmement sinueux. Ne commencez pas à fantasmer. 4 km 380.
Un peu quand même. Hein.
Je savais que ça vous plairait.
On se calme. Vas-y.
Voilà, on se calme. Et donc, c'est un circuit, il faut beaucoup d'appui. Ne fantasmez toujours pas. Voilà. Un peu comme à Monaco. De rien, je parle de Formule 1, je parle d'appui aérodynamique.
Laissez
et donc, c'est pas pour les Red Bull. C'est pas pour les Red Bull. C'est pas bon.
Et donc, ils vont réussir à trouver des solutions, bien sûr, pour pas être largués comme ils le sont là. Maintenant, est-ce qu'ils vont revenir dans le coup? Je vais pas parler encore une fois des papayas, c'est-à-dire des McLaren, qui vont être un boulevard devant le coude à la portière. Mais est-ce que derrière, ils vont pouvoir dominer, on va dire, par exemple, les Ferrari? C'est toute la question. Parce que Charles.
Allez, Lewis! Tu peux le faire, Lewis.
Voilà. Lewis, allez, Lewis. Si tu entends ta copine Marion, voilà, elle t'encourage. Parce qu'il écoute les grandes gueules du sport grâce à toi, Lewis. Donc,
oui, bien sûr. Non, je suis pas certaine. Mais on l'aura
et
dans Bartolita la saison prochaine.
Écoute.
Ça, je peux vous le dire.
Écoute, on fera un débat sur Hamilton avec Jean-Luc aussi. Jean-Luc, 16h, les qualifications du Grand Prix de Hongrie à suivre avec toi sur RMC. On l'a bien compris, à ne pas rater. Et on suivra d'ailleurs le Max Verstappen depuis qu'il a annoncé sa décision de rester. Ça sera intéressant de suivre ses performances sur la Red Bull. Et puis quelque chose me dit qu'on reparlera de F1 peut-être demain également dans les GG. À bientôt.
C'est un bruit qui gonfle.
Oui. Ça va être Toto Wolff, ça. C'est un coup de Toto Wolff.
C'est Toto Wolff.
Allez, dans
un
instant.
C'est Toto Wolff.
Merci Jean-Luc. Merci mille fois. À très bientôt.
Super,
merci
Jean-Luc.
Allez, on revient dans les GG avec le dossier des GG. On va prendre la route du Tour de France femmes et on va s'emparer du dossier de la nutrition des cyclistes. Après un message d'alerte lancé par une coureuse du Tour de France. Restez avec nous, on revient tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
11h31 sur RMC dans les grandes gueules du sport ce matin. Marion Bartoli, Ludo Duchesne, Fred Weiss. Bon courage si vous êtes sur la route. On est avec vous, on vous accompagne. J'espère que vous passez un bon moment. Dans 15 minutes, ce sera le débat caché. Mais d'abord, c'est l'heure d'ouvrir le dossier des GG.
RMC, le dossier des GG.
Cédrine Carbajol, qui participe au Tour de France Femmes dans l'équipe EF Education Watley, a lancé un message qui n'est pas passé inaperçu en constatant la maigreur de certaines coureuses. Et comme elle est titulaire d'un BTS en diététique, elle a souhaité mettre en garde contre une alimentation surveillée à outrance. On va en parler. Est-ce que ça va trop loin, justement, cette nutrition, et notamment pour les coureurs cyclistes? Et pour en parler, on est avec Jérôme Coppel, membre de la Dream Team. Salut Jérôme!
Salut François, salut à tous.
Salut Jérôme.
Content de te retrouver après le
Tour
de France.
Ça fait plaisir.
Et puis on va en parler aussi avec Léna Marjac qui suit le Tour de France Femmes pour RMC. On la retrouve dans les GG ce matin. Salut Léna.
Rebonjour tout le monde.
Rebonjour
Léna. On a fait bosser Léna. Tu vas nous rappeler les propos de Cédrine Carbajol qui ont fait beaucoup réagir sur le Tour de France Femmes cette semaine, Léna.
Oui, ça fait réagir parce que Cédrine Carbajol constate que certaines coureuses maigrissent pour performer et c'est mettre clairement sa santé en danger, surtout si cela n'est pas encadré. Et donc Cédrine en fait un vrai combat, c'est de briser le tabou de la maigreur dans le peloton.
J'avais pas prévu d'en parler forcément. Il y a eu beaucoup de retours positifs, beaucoup de gens qui ont les mêmes idées, mais qui savent pas si les autres les partagent aussi. Et ça a un petit peu commencé à briser le tabou et j'espère que ça va continuer. On espère que ça va avoir un effet positif de prévention.
Et déjà, ces paroles ont été entendues par Dilixine Miermont, 25 ans. Elle est coureuse chez Ceratizit.
On essaye d'être au millimètre sur tout et malheureusement je suis pas sûre que ce soit un bon côté d'être au millimètre là-dessus, autant bien pour notre corps que aussi pour notre tête. Je pense que de se priver c'est pas non plus super bien, je pense qu'il faut garder des petits côtés plaisir. Je pense que c'est super important de faire attention à sa santé parce que il y a le moment T où on est dans le cyclisme et on veut performer, mais je pense qu'il y a aussi une vie après où il faut faire attention justement à notre santé et prendre soin de nous, ouais.
Parce que de façade, en fait, on voit quoi? Alors, des jeunes femmes dans le peloton, aux bras fins, aux jambes musclées, aux joues même parfois creusées. Mais ça, c'est juste de façade parce que de l'intérieur, un vrai problème existe. Et ce problème, il a un nom, c'est le syndrome REDS, qui signifie en anglais déficit énergétique relatif dans le sport. Alors, c'est une pathologie que les médecins connaissent depuis longtemps, mais qui comporte des risques. Absence de règles, ostéoporose, problème de thyroïde, troubles psychiatriques ou encore dermatologiques. Ça, c'est une liste énumérée par Mathieu Muller, le médecin de l'équipe féminine de la Cofidis.
En fait, c'est une pathologie particulière parce que le REDS, au départ, on va performer parce qu'on aura un rapport poids-puissance plus intéressant. Sur le long cours, en fait, ça sera au détriment de sa santé. Mais en aigu, ça, on va plus performer. Mais si on reste trop maigre, trop longtemps, on va moins performer. Et il faut programmer. Et il faut cibler ses objectifs, un ou deux par an, et il faut programmer l'affûtage à ce moment-là. Et après, ces objectifs-là vont reprendre un petit peu de poids. Ça n'a aucun impact sur la santé.
Et d'ailleurs, je vous prends un exemple sur ce Tour de France. Pauline Ferrand-Prévot, entre sa victoire à Paris-Roubaix et le début de ce tour, elle a perdu quelques kilos, 2-3 kilos à peu près, mais elle en est consciente. Elle ne peut pas rester au long terme avec ce poids-là parce qu'en raison des conséquences. Alors hier, Mathieu Muller, le médecin, me disait, est-ce qu'il faudrait instaurer une masse grasse minimale aux coureuses? Ça lui semble quand même très compliqué de mettre ça en place. Maintenant, le fait que Cédrine Carbaol ait pris publiquement la parole sur ce sujet, ça peut faire avancer les choses. Déjà, elle, en collaboration avec le syndicat des coureuses, elle espère maintenant un meilleur accompagnement et surtout une meilleure prise en charge de l'ensemble de ses athlètes.
Merci beaucoup Léna. Évidemment, on te retrouve un peu plus tard pour commenter la course là, sur le plan sportif. Hein. On en a parlé tout à l'heure dans les GG, mais ce cri d'alerte, Jérôme Coppel, toi qui as fait du vélo, tu sais à quel point la nutrition est importante, notamment pour les, pour les cyclistes. Qu'est-ce que ça t'a inspiré quand tu as entendu ça ?
Bah, ça me fait toujours un peu mal, j'allais dire, parce que nous, on était dans cette même configuration dans les années, avant 2010-2012, avant que l'équipe Sky arrive. Parce que, comme l'a dit Léna dans son reportage, c'est-à-dire nous, on était à la recherche du meilleur rapport poids-puissance. Et qui dit meilleur rapport poids-puissance dit maigrir. Mais on n'était pas encadré. C'est ce que dit Cédrine dans son interview, c'est qu'il faut que la perte de poids soit encadrée. Nous, on était un peu des apprentis sorciers. On voulait perdre du poids, on roulait beaucoup, on mangeait pas, on faisait ça sur des longues périodes, on faisait vraiment un peu n'importe quoi. Au détriment de la santé. Moi, j'ai vu des comportements de certains coureurs qui faisaient vraiment assez peur, hein, des troubles du comportement alimentaire. Et ça, oui, il y a le côté performance, mais ça doit pas être au détriment de la santé. Mais là, je vous parle des années de 2005 à 2011-12 à peu près. Là, on n'avait pas de nutritionniste dans les équipes, on n'avait pas de cuisinier, on n'avait pas tout ça. Et c'est pour ça que moi, maintenant, j'ai l'impression que la morphologie des coureurs, on était encore sur le Tour de France il y a quelques jours de cela, la morphologie des coureurs a un petit peu changé, je trouve. On est moins dans des coureurs qui sont ultra maigres, comme on avait des Froome, des Bradley Wiggins, par exemple, à l'époque. Maintenant, grâce aux nutritionnistes, aux cuisiniers qui sont là, les coureurs savent exactement la quantité qu'ils doivent manger. Et comme l'a dit le médecin de l'équipe Cofidis, en fait, tant que c'est fait sur certaines périodes, pour certains gros objectifs, ça pose pas de problème. Mais quand c'est fait sur du long terme, ça peut vraiment avoir de graves conséquences.
Ouais. Après, c'est vrai que là, ce cri d'alerte permet de mettre quand même en lumière, on a parlé du syndrome Red-esque, voilà, des ouais. choses qui est malheureusement des conséquences graves, et notamment chez les femmes.
Hein. Bien voilà. sûr. Donc, bah, bien sûr, parce que Il y a des conséquences sur l'après-carrière chez les hommes, des troubles du comportement alimentaire, etc., des problèmes de peau, comme Léna l'a très bien expliqué. Mais chez les filles, il y a tout le côté cycle menstruel aussi qui est là, que nous, les hommes, on n'a pas. Donc là, tu rajoutes encore un problématique. Moi, avant de faire du vélo, j'étais en sport-études, en équipe de France de ski de fond. Il y avait déjà ces problèmes-là dans les années 2000, des filles qui n'avaient pas leurs règles, etc. Et bien sûr qu'à long terme, c'est... ça peut avoir des conséquences assez graves, quoi.
Bon, en tout cas, voilà, cette mise en lumière, on voulait en parler dans les GG. Vos réactions, les GG, Marion, sur ce sujet-là, de la performance, de la nutrition, de ces filles qui font très attention à ce qu'elles mangent et de ce rapport poids-puissance qui, forcément, pose problème, hein, parce qu'on voit des filles qui maigrissent beaucoup pour être plus performantes.
Totalement. Alors, c'est vrai que je pense qu'il y a un distinguo qui est important à faire et je rejoins ce qui a été dit précédemment. C'est vrai qu'une masse grasse trop faible chez les femmes entraîne ce qu'on appelle, alors en français, hein, la triade de la sportive, c'est-à-dire le déficit d'apport énergétique qui conduit à l'absence de règles et ensuite à l'ostéoporose. Donc, on peut avoir justement une coureuse qui se fracture les cervicales et qui finalement pourrait se retrouver éventuellement paraplégique parce qu'il y a une déficience osseuse qui est trop importante due au manque de calories absorbées. Alors, je pense que aujourd'hui, les équipes investissent énormément d'argent dans ce qui est la nutrition. Aujourd'hui, la Visma, par exemple, alors là, je parle du côté masculin de l'équipe masculine, a 13 nutritionnistes. Les plats sont préparés dans un food truck égaré sur les parkings des hôtels dans lesquels résident les coureurs pour ne plus se servir au buffet de l'hôtel comme les gens lambda qui venaient séjourner dans l'hôtel, mais justement essayer de régler chaque calorie absorbée. Alors là où c'est plus encadré, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de data qui sont récoltées parce qu'il y a, il y a trois types de morphologie. Il y a les ectomorphes qui sont très grands et très minces et tout secs comme Froome par exemple. Il y a les endomorphes qui sont plus puissants, costauds, trapus, mais très musculeux, qui auront une demande et un besoin énergétique qui va être complètement différent. Et il y a les mésomorphes qui sont dans un profil plus intermédiaire. Et aujourd'hui, grâce à cet encadrement médical, on arrive justement à être plus sur quelque chose de précis en fonction des besoins énergétiques, pardon, de chaque coureur, de chaque coureuse, de leur donner un apport énergétique qui soit suffisant. Là, moi, où je me bats là-dessus, c'est finalement pour cette course vers la masse mec de plus en plus faible, parce qu'effectivement, un kilo de graisse pure en moins, c'est 7 watts en plus, mais c'est pas tenable sur une année complète et c'est pas tenable sur une carrière complète. Donc il faut absolument que ça soit sur des parcours très ciblés dans une année, des courses extrêmement ciblées dans une année, laisser les jeunes filles ou les coureurs lâcher un petit peu prise de temps en temps, se faire plaisir sur 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, puis éventuellement reprendre une phase effectivement d'affûtage, avoir une autre compétition très importante. Mais ce n'est pas tenable à l'année. Pour quelqu'un comme moi qui a souffert d'anorexie, je pourrais vous en parler pendant énormément de temps, à quel point ça a des ravages psychologiques qui sont majeurs et qui sont difficiles à pour même les familles qui entourent justement les sportifs, parce que vous renfermez sur vous-même totalement. Donc ouais. Je pense qu'il y a vraiment une sonnette d'alarme justement à lancer, et c'est bien que les sportives elles-mêmes en parlent. Mais chez les filles, ça a vraiment des ravages qui sont très importants, et ça, je pense que c'est vraiment fantastique que Cédrine prennent la parole pendant une vitrine aussi importante que le Tour de France féminin pour mettre en lumière les difficultés qu'elles peuvent ressentir au quotidien et cette pression autour de la nourriture.
Ouais, vos réactions, Ludo et Fred, sur ce qui vient d'être dit. Et effectivement, cette importance pour Cédrine Kerbaol de mettre en avant ce discours-là, parce qu'il y a un discours aussi au sein du peloton de dire « Ah, regarde, elle a perdu du poids ». Où il a perdu du poids, il peut aller gagner le Tour de France, donc de valoriser en quelque sorte le fait de perdre beaucoup de poids.
Ouais, tu grimpes forcément mieux, mais
on le met en avant et on dit il est plus affûté. Il est plus affûté.
On parlait de Pauline Ferrand-Prévot, je crois qu'elle a perdu 4 kilos entre Paris-Roubaix et aujourd'hui.
C'est visible d'ailleurs.
Bah, je sais pas déjà qu'elle est toute fine. Enfin bon, c'est impressionnant. Moi, quand je vois Iris Vingegaard, je me dis pas qu'il est forcément en bonne santé. Il est, je trouve, extrêmement maigre aussi. Le problème du vélo, mais c'est ce qui en fait aussi sa beauté, c'est que tout est poussé à l'extrême. C'est un sport, c'est un sport jusqu'au boutiste, en fait. C'est que, à tous les niveaux, que ce soit le matériel, que ce soit l'entraînement, que ce soit l'aérodynamisme, et donc la nutrition, on pousse la chose, jusqu'au bout. Par exemple, en football, tous les joueurs, d'un très haut niveau, ont un nutritionniste personnel. Et ça se passe très bien, pour le coup. Ils n'ont pas du tout ces mêmes soucis. En vélo, on va tellement loin dans l'expérimentation, c'est tellement dur.
On pousse tellement la chose au maximum que ça devient
fou et dangereux, en fait. Mm. Et donc, ils mettent effectivement leur santé en danger. Et elle a raison, Cédrine Kerbaol, de le dire haut et fort. Mm.
Fred ?
Je suis très partagé. C'est très difficile pour moi de prendre une décision par rapport à ça, parce que, enfin, en tout cas, de répondre à la question qui est posée, parce que on sait que les athlètes, et surtout pour le vélo, et évidemment, qui est un sport extrêmement difficile, on sait que c'est des mécaniques de précision. On sait que chaque petit changement dans l'alimentation, dans la préparation, ça peut apporter énormément, et donc, on a quasiment tendance à dire, c'est important de le faire. Effectivement, on dit qu'on est affûté, on dit pas qu'on a maigri, on dit qu'on est affûté, on valorise ça, etc. Et donc,
c'est contre ça qu'il faut lutter, je
suis d'accord, sauf que le contrat, c'est ça aussi, c'est les performances. Donc, c'est pour ça que je suis un peu partagé. Parce
de là à mettre sa santé
et voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut trouver le bon arbitrage entre performance extrême et protéger la santé des athlètes. Mais c'est très difficile à faire, parce que une nouvelle fois, si c'est pas toi qui le fais, tu vas supposer que l'autre est capable de le faire. Et donc, c'est une course à la maigreur, à la performance. Et on peut pas dire qu'elle soit bénéfique, c'est sûr.
Jérôme.
Ouais, ce qui est compliqué, c'est déjà le sport de haut niveau n'est pas bon pour la santé. Ça, tous ceux autour de la table, on aura certainement tous le même discours. Je veux dire, c'est pas bon de faire entre 30 et 35 000 kilomètres de vélo, peu importe si tu manges beaucoup ou pas beaucoup. Déjà, le sport de haut niveau est très exigeant et pas forcément bon pour la santé. Mais ensuite, il y a des histoires de résultats, et qui dit résultat dit contrat derrière. Quand t'es dans le milieu pro, t'es un peu dans ta bulle où tu vas dire celui d'à côté il m'a battu, mais putain, c'est vrai qu'il est quand même un peu plus sec, lui. Tu vas discuter avec lui, il dit j'ai fait du régime intermittent, j'ai fait le régime dissocié scandinave ou je sais pas quoi, puis putain, ça a l'air de marcher, toi tu vas essayer ça, et puis finalement ça marche pas trop mal, donc tu réessayes, et puis au lieu de faire sur une petite période, tu vas faire sur plus long, parce que tu veux avoir des résultats, parce que tu vas avoir un contrat, parce que c'est le jeu aussi d'être sportif de haut niveau. Le jeu, c'est de pousser tous les curieux curseur au maximum pour essayer d'être
mais Jérôme, justement, possible. Jérôme.
Et le problème, c'est que tu oublies ton facteur santé. Et c'est là où je trouve que, en plus, Cédrine, elle a la légitimité parce qu'elle a le diplôme. Mais c'est là où, des fois, en fait, il faut que certaines personnes du staff nous enlèvent nos œillères et nous disent, hey, attends, le sport, c'est très bien. Ça va être qu'une petite partie de ta vie. Mais après ta carrière, t'as encore 50 ou 60 ans à vivre. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine sur cette courte période de mettre ta santé en danger alors que après, ça va peut-être
t'handicaper pour le reste de ta vie? Jérôme, tu parles du staff qui vit de ça aussi et qui est indexé sur ça aussi, tu veux dire?
Bien. Oui, oui.
Ouais,
oui,
mais là, c'est pas évident. Hein.
Et tu vois,
pas évident
depuis,
quand même. Hein.
Non, justement, c'est pas évident. Mais moi, je prenais mon exemple au début de ma carrière où on n'avait pas de, oui. pas de nutritionniste, pas de.
Ouais, là, on en est loin, là.
C'est encadré.
Mais, bah, bien sûr. Maintenant, c'est l'inverse. Mais, OK, Jonas Vingegaard, vous avez dit, il paraît très mec. Pour l'avoir vu en vrai, il fait moins mec que ce que la télé renvoie. Mais un tas d'épaules.
Eh ben, moi, on dit l'inverse. On dit souvent l'inverse.
Bah, ouais, bah. Non, mais non, franchement,
tu fais de la radio.
C'est pour ça que je suis de la radio.
Ouais, nous, on a des physiques de radio, Fred, de toute façon.
Oui.
Mais tu vois, un mec comme Tadej Pogacar, il fait pas ultra mec, par exemple.
Oh, c'est vrai.
Un Thibaut Pinot faisait pas très mec, par exemple.
Van Der Poel non plus.
Ils étaient pas ultra mec. Van Der Poel non plus. Wout Van Aert non plus, finalement. Donc, j'ai l'impression que faut toujours, bien sûr, être en alerte, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Oui. Ouais. Mais grâce à l'encadrement du staff, ça va quand même dans le bon sens. Enfin, moi, je suis arrivé au départ d'un Tour de France, j'avais 4,5 de matière grasse, pour vous donner une idée.
Dire,
c'est, et tu pars pour 3 semaines.
Fred, ça t'est arrivé aussi ou...
Alors 4,5, oui, ça m'est arrivé à la naissance.
Donc, c'est bien sûr que c'est pas bon pour la santé. Après, tu tombes malade. Enfin, il n'y a rien qui va. Mais maintenant, comme c'est plus encadré, j'ai le bon espoir que le cyclisme masculin et féminin aille dans le bon sens.
Bon, on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, c'est vrai que ce qu'a fait Cédric Kerbaoul, c'est aussi très courageux hein, de sa part. Voilà, elle dit des choses qui ont résonné dans ce peloton et ça a permis justement de mettre en lumière ce débat. Merci beaucoup Jérôme d'être passé.
Merci à vous, et merci à Léna aussi.
Et on remercie Léna, évidemment. Bah, Léna, elle est là pour ça aussi.
Oui, bon, on la remercie tout le temps parce qu'elle est tellement douée, Léna, on adore.
Et puis on la retrouvera tout l'après-midi, Léna, merci au commentaire aussi. de cette avant-dernière étape du Tour de France Femmes que l'on va suivre sur RMC. Dans un instant, c'est l'heure du débat caché. Vous restez avec nous, hein, bien sûr. On revient tout de suite sur RMC. À tout de suite.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
De retour dans les grandes gueules du sport jusqu'à midi, à retrouver en podcast dès maintenant sur l'appli RMC, vos GG du sport, Ludo Duchesne, Fred Weiss, Marion Bartoli, qui vous accompagne depuis 9h ce matin dans les grandes gueules du sport. Et tout de suite, on va pas perdre de temps, c'est l'heure du débat caché. C'est parti.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Et le guet-apens du jour, eh bien c'est ça, écoutez.
Hey tennis fans, by now you have all heard about the way the US Open plans to revitalize its mixed doubles competition this year, with $1 million in prize money going to the winning team. Emma Navarro paired up with Jannik Sinner, Qinwen Zhang and Jack Draper, Jess Pegula and Tommy Paul, and how about this one, Yasmin Paolini and Lorenzo Mazzetti.
C'est une nouveauté qui ne plaît pas à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Le 19 et 20 août prochain, pendant les qualifs de l'US Open, se déroulera le tournoi de double mixte. Pour la première fois, le double mixte n'aura pas lieu en même temps que les tournois principaux. Les règles ont changé également, des sets de 4 jeux, pas d'avantage, des tie-breaks à 4 partout. Mais le plus gros changement, c'est que les organisateurs de l'US Open ont invité 16 équipes, et pas n'importe qui, puisqu'il y a toutes les stars du tennis présentes. Yannick Sinner, une paire Carlos Alcaraz et Maradou Canou, Djokovic sera là également, sans oublier la présence de Venus Williams. Le but, c'est redonner un peu plus de visibilité à ce tournoi de double mix, souvent peu médiatisé. Et à la clé, il y a quand même une dotation de $1 million pour convaincre toutes ces stars. Alors bien sûr, ça ne plaît pas aux fans et aux spécialistes de double qui sont très mécontents, qui expliquent qu'on ne peut pas donner un titre du Grand Chelem sur une compétition
en plus
en 2 jours qui n'a absolument rien à voir avec le tennis. Est-ce que vous pensez quand même que c'est l'avenir
non.
de ce double mixte, Ludo Duchesne?
Non.
Fred Weiss?
Oui.
Mario Bartoli?
Oui.
Alors, on va vous écouter juste avant d'écouter.
Décidément, il y a un thème à prendre.
Novak Djokovic. Novak Djokovic, écoutez bien, qui est.
Everybody hate Ludo Duchesne.
Bah, non, vous deux en tout cas, mais là, je suis sidéré encore par votre réponse. Hein.
Écoutez Novak Djokovic, qui lui est un petit peu gêné quand même, même s'il va participer quand même. Écoutez.
It's going to be fun.
Ça va être fun. Je sais que les avis sont assez partagés sur la question de savoir si ce changement aurait dû avoir lieu ou non. Je pense qu'en termes d'amusement et de divertissement, et pour attirer les meilleurs joueurs de simples hommes et femmes, c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec ce changement. Mais je comprends les arguments de l'autre partie qui dit que, sur deux jours, un format court, on ne devrait pas être nommé champion d'un grand chelem. Mais c'est comme ça. Je suis excité de jouer ce double mixte qui devrait être divertissant.
I'm excited to play that mixed doubles event. It should be very, very entertaining.
Novak Djokovic qui va donc participer à ce double mix de l'US Open. Pour toi, Fred, c'est oui.
Oui, c'est oui. Moi, ça m'excite. Voir les meilleurs, voir ce format-là, ça peut être hyper intéressant, hyper fun. Je crois que Djokovic a tout expliqué. Hein. Effectivement, pour les spectateurs, ça va être incroyable. Comme lui, je suis un peu partagé. Effectivement, me dire, tu prends un grand chelem sur deux jours, c'est un peu chaud. Mais par contre,
sur invitation, du coup, non, c'est ça. C'est
oui, mais c'est les meilleurs. C'est quand même les meilleurs.
Ouais, c'est les meilleurs joueurs en individuel, mais il y a pas les meilleurs en.
Oui, mais ça va plaire aux gens. Ça va.
Alors, il y a les tenants du titre quand même qui sont là.
Ça va nous exciter. Ça va nous plaire, ça va nous donner envie d'y aller. Ouais. Et c'est le modèle actuel. Il faut que ça soit rapide, il faut que ce soit fun, il faut que ce soit plaisant.
Mais qui regarde le double mix pour te répondre, Ludo?
Voilà, personne.
Donc c'est l'occasion de vous regarder.
Du coup, moi, je ne regarderai pas plus. Donc ça ne m'intéresse pas du tout. Non, mais ça ne m'intéresse pas. C'est du cirque, là. Et le fait que ce soit sur invitation, il y a des vrais spécialistes du double mix. Il y a des joueurs et des joueuses qui jouent ça et qui gagnent leur vie grâce à ça. Donc là, on va créer encore un truc.
Il y a des spécialistes que tu ne regardes pas.
Non.
Ben oui.
Ah non, ça m'a déjà le double, c'est compliqué. Alors double mixte, qui va regarder? Non, c'est juste pour faire encore un spectacle, inventer un espèce de format. On a la next gen déjà qui crée différents formats avec un set en quatre jeux, etc. Mais là, c'est des jeunes, c'est un peu différent et ça peut être intéressant. Mais là, ce format-là, même si Djokovic est partagé, je me demande, c'est pas encore une fois pour l'argent, tout simplement.
Marion, pour finir sur ce débat.
Alors, pour faire très court, effectivement, oui. je travaille pour beaucoup de télés différentes avec une opinion française, une opinion anglaise, une opinion américaine. Ce qui est certain, c'est que effectivement, il y a des problèmes économiques autour du double mixte, surtout aussi des problèmes de programmation. Et que donc, dans ce cadre-là, même les joueurs qui sont spécialistes de double et qui ne jouent entre guillemets plus que ça, se plaignent aussi que les prize money, l'argent distribué pour les vainqueurs sont vraiment très loin de ce que les joueurs de simple gagnent.
Ouais.
En prenant tout cela en compte et en essayant justement de pas les programmer à des heures non plus où personne regarde et ça devient vraiment une compétition qui devient intimiste et justement pour mettre les joueurs en avant, ils ont trouvé un système. Alors c'est à l'américaine, bien évidemment, c'est le show à l'américaine. Donc c'est pendant ce qu'ils appellent la Fan Week. Donc en fait, c'est la semaine qui précède le vrai entre guillemets début du US Open pour les tournois de simple qui cette année va commencer entre parenthèses le dimanche. Donc pendant la semaine des qualifications où les top joueurs de simple ne jouent pas nos tournois, donc ils sont quasiment sûrs de les avoir sur deux jours, avec une mise en lumière quand même des joueurs spécialisés de double, puisque les tenants du titre de l'année dernière, qui sont les Italiens Errani et Vavassori, vont participer à ce tournoi, avec Taylor Townsend, qui est numéro 1 en double femme, qui va participer à ce tournoi également avec un autre Américain, Ben Shelton. C'est finalement mettre une lumière plus importante sur cette compétition qui était en train, à petit feu malheureusement, de mourir, parce que les télés ne diffusaient plus les matchs n'étaient plus vraiment commentés non plus. Ouais. Donc, il y avait un problème économique qui était certain. Alors, est-ce que c'est la bonne réponse? On va voir ce que ça va donner. Là, je rejoins Novak, c'est qu'effectivement, je comprends aussi des joueurs qui sont spécialistes de double et qui se disent, attends, on va quand même pas dire qu'ils sont vainqueurs de l'US Open et vainqueurs d'un tournoi d'un grand chelem avec un format aussi court. Mais si c'est pour sauver la discipline, moi, je suis d'accord. Donc, ma réponse n'est pas uniquement tout blanc ou tout noir, mais je pense que c'est intéressant d'explorer ce genre de format parce que pour faire un petit peu dans les potins et pour terminer, Paola Badoza, qui était avec Stefano Tsitsipas en couple et donc qui devait jouer avec lui, comme ils sont séparés, finalement, elle va jouer avec Jack Draper.
Ah mais voilà,
c'est une info avec Jack Draper maintenant.
Mais ça y est, c'est passionnant.
Voilà, c'est ça qu'on veut, Marion.
C'est ça qu'on veut. On veut du gossip, Marion. On veut du gossip.
Voilà, je t'ai intéressé.
Magnifique. Ça y est, la Ludo, il va regarder rien pour ça, pour savoir si il y a pas des petites crispations aussi dans les.
J'aime beaucoup. Bah voilà, déjà, je savais pas qu'elle était avec Jack Draper. Voilà, je prends des choses.
On apprend des trucs. C'est bien.
Bien sûr.
Bah les GG, on apprend des trucs.
Ça m'intéresse.
Heureusement. Elle joue en double mix.
Donc regardez
de
ce coup.
On a attendu la fin de l'émission quand même pour apprendre un truc. C'est bien quand même.
Mais mieux vaut tard.
Exactement.
Sur le gong, hein, vraiment.
Marion, merci mille fois. Merci beaucoup.
Merci Marion.
À très bientôt dans les grandes gueules du sport. Fred et Ludo, on se retrouve demain.
Oui.
Même heure, 9h pour les grandes gueules du sport en direct sur RMC et en pleine forme.